Salutations, frères et sœurs. Belle fée des trompettes aujourd'hui. On se sent de plus en plus en automne ces jours-ci. J'en suis très reconnaissant. J'apprécie cette période de l'année, comme nous tous, j'en suis sûr. J'attends cette saison avec impatience. Je voudrais commencer par une question fondamentale. Nous sommes ici en ce jour solennel. C'est le jour que Dieu nous a commandé de célébrer dans sa parole, et il s'appelle la fête des trompettes. Je voudrais simplement poser une question fondamentale pour commencer ce message. Que signifie ce jour? De quoi s'agit-il? Pourquoi sommes-nous ici et pourquoi le célébrons-nous? C'est une question assez fondamentale. J'espère que nous pouvons tous y répondre. Si nous ne pouvons pas y répondre, alors pourquoi sommes-nous ici? Que faisons-nous? Nous devons savoir pourquoi nous observons ce jour important aux yeux de Dieu, sinon pourquoi l'aurait-il ordonné dans sa parole? Passons au chapitre 23 du Lévitique et commençons à répondre à cette question. Lévitique chapitre 23. C'est le chapitre des jours saints. Dieu expose dans sa parole les jours que nous sommes censés respecter, quand nous sommes censés les respecter et comment nous sommes censés les respecter dans Lévitique chapitre 23. Nous allons commencer au verset 23, Lévitique 23 verset 23. L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, au septième mois nous y sommes, le septième mois du calendrier hébraïque, le calendrier sacré est Tishrin, au septième mois, le premier jour du mois Tishrin, vous aurez un sabbat, un jour de repos. Aucun travail n'est autorisé, tout comme le sabbat hebdomadaire. Ce sera pour vous un jour mémorable, une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail servile, mais vous offrirez une offrande consumée par le feu à l'Éternel. Nous nous présentons donc devant Dieu et nous apportons des offrandes ce jour-là. Nous ne faisons pas de sacrifice comme on le faisait dans l'ancien Israël, mais nous apportons une offrande à la place. Et puis, le verset 26 continue. Il dit, « Et le Seigneur parla à Moïse, disant, le dixième jour de ce mois, vous observez le jour saint suivant. Mes frères, c'est tout ce qui est dit à propos de ce jour, cette fête des trompettes. Elle est appelée commémoration du son des trompettes. C'est ainsi que ce jour est appelé. Dieu nous a donné trois versets sur ce jour important. Et il n'y a pas grand-chose d'autre à dire à ce sujet que ce que nous lisons ici dans Lévitique 23. En ce qui concerne le commandement de respecter ce jour, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais c'est en quelque sorte comme si Dieu voulait, s'adressant peut-être à ceux qui enseignent, à ceux qui prêchent en ce jour, Dieu veut que nous restions très concentrés sur ce jour. Il ne veut pas que nous nous égarions dans des sujets vastes et variés. Dieu dit très peu de choses sur ce jour, peut-être parce qu'il veut que nous restions concentrés sur les sujets très précis décrits dans sa parole. Et ici, il est dit qu'il y a la commémoration du son des trompettes. Or, commémoration signifie, et c'est souvent ainsi traduit, souvenir, on pourrait donc dire que c'est le souvenir du son des trompettes. Qu'est-ce qu'un souvenir? Qu'est-ce qu'une commémoration? Dans la société actuelle, on pense aux grands monuments érigés en l'honneur de personnalités importantes. Prenez par exemple le mémorial du 11 septembre. Après l'effondrement des tours, lorsque les avions ont percuté les bâtiments et que ceux-ci se sont écroulés, ce qui a marqué un tournant dans l'histoire américaine, un mémorial a été érigé à la place des deux tours, les tours jumelles, afin que les gens puissent se rendre à l'endroit où elles se trouvaient autrefois et, plutôt que de regarder les tours elles-mêmes, ils peuvent regarder le mémorial qui commémore et aide à se souvenir de ces tours et des personnes qui ont péri à ce moment-là. C'est donc un jour de... D'une certaine manière, c'est un jour de commémoration. C'est ce qu'est ce jour, Mais ce n'est pas seulement un jour pour se souvenir de quoi que ce soit en général. Dieu dit que nous devons nous souvenir du son des trompettes. C'est là l'essentiel. C'est l'accent que Dieu nous a donné pour ce jour. Ce n'est pas très large. Nous ne sommes pas censés aborder toutes sortes de sujets différents en ce jour des trompettes. Nous devons rester concentrés. C'est comme s'il disait au ministère, à nous tous qui enseignons ici, mais aussi à tous ceux qui écoutent, ne vous emballez pas trop dans vos messages. Ne vous emballez pas trop. Restez simple et concis. Restez simple et concentré sur ce sujet aujourd'hui. Et c'est ce que nous ferons. Notre objectif aujourd'hui est de rester concentré sur le simple fait de nous souvenir des différents moments de l'histoire et de la prophétie où Dieu a utilisé des trompettes. C'est le but de cette journée. Nous sommes censés nous souvenir du son des trompettes. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons passer en revue divers récits où des trompettes ont été sonnées, et Dieu ne veut pas que nous nous contentions de dire « c'est un beau récit ». C'est merveilleux que des trompettes aient été sonnées dans ce récit. Il veut que nous en tirions des leçons. Il veut que nous regardions où les trompettes sont spécifiquement utilisées dans sa parole, que nous étudions ces récits et que nous en tirions des conclusions fondamentales que nous pouvons ensuite appliquer dans nos vies. C'est le thème central d'aujourd'hui. Il veut que nous nous souvenions de ces choses comme si nous nous rendions au mémorial du 11 septembre ou comme si nous nous rendions devant la statue d'une personne morte à la guerre. Dieu aurait pu utiliser ou choisir différents instruments, mais il a d'abord choisi les trompettes. Voyons brièvement ce que sont les trompettes. Il y a le shofar, qui est une corne de bélier. Cette corne est unique. Elle est différente des cornes de vache et autres cornes bovines, car elle est creuse. Elle peut être évidée. Et lorsque vous utilisez cette corne et que vous soufflez dedans, elle produit un son puissant, tout comme une trompette aujourd'hui. Les trompettes sont des instruments uniques à bien des égards. Ce n'est pas le jour du violon. Ce n'est pas le jour du piano, ni celui de la harpe, ni celui du xylophone, ni celui du didgeridoo, ni celui d'aucun autre instrument. C'est le jour des trompettes. J'ai une petite anecdote à raconter au sujet des violons, car j'ai récemment joué du violon. Il y avait un mariage dimanche, puis nous avons eu la musique de l'offertoire de la fée des trompettes que j'ai jouée. Et à propos de quelque chose, vraiment un miracle. C'est une note en marge. C'est en quelque sorte lié, mais un miracle s'est produit récemment lorsque je jouais à ce mariage, un mariage merveilleux qui a eu lieu il y a quelques jours, dimanche dernier, et j'ai sorti mon violon, j'ai bien joué, tout s'est bien passé. Je sors mon violon vendredi matin pour répéter la musique de l'offertoire, et je commence à jouer comme d'habitude. Je joue depuis que je suis en CE2. Je joue depuis des décennies. Et ce que je vais vous raconter, je ne l'ai jamais vu arriver, ni à moi ni à aucun autre violoniste que j'ai pu voir dans toute l'histoire du violon. Cela s'est peut-être déjà produit, mais je ne l'ai jamais vu. Je sors mon violon, et la fois suivante où je sors mon violon après avoir joué au mariage, remarquez que cela aurait pu se produire au mariage, c'est la fois suivante où je sors mon violon, je le sors, je commence à m'exercer et la touche, qui est la partie sur laquelle on pose les doigts pour monter et descendre le long du violon, qui est essentielle pour jouer du violon, cette touche est tombée. Je n'ai jamais rien vu de tel de ma vie. Je suis donc reconnaissant que cela se soit produit juste entre le mariage et l'offertoire des trompettes. Mais c'est un détail. C'était un miracle que Dieu ait permis que cela se produise à ce moment-là plutôt que pendant l'offertoire des trompettes ou pendant le mariage, heureusement. Cela aurait été dévastateur dans les deux cas, mais revenons aux trompettes. Pourquoi Dieu a-t-il choisi les trompettes? Parce que le violon est un bel instrument, le piano est un bel instrument, la harpe est un bel instrument, mais pourquoi Dieu a-t-il choisi les trompettes? Eh bien, la trompette a un son particulier. Il est très unique. C'est un son très clair. C'est un son très fort. Il peut être très, très fort. Il produit un bruit perçant, qui vous transperce presque. Peu importe la force avec laquelle je joue du violon, ou peu importe la force avec laquelle quelqu'un frappe sur le piano, ils ne peuvent pas produire le même son perçant que la trompette. Elle peut atteindre des notes très aiguës. Et c'est un petit instrument. C'est quelque chose que l'on peut transporter partout. Dans la Bible, la trompette est décrite comme un instrument de guerre. Vous n'allez pas transporter un tuba ou sortir un piano en pleine guerre pour en jouer dans l'espoir d'intimider vos ennemis sur le champ de bataille. Cela ne fonctionne tout simplement pas ainsi, mais la trompette est perçante, elle est directionnelle. Quand vous soufflez dans cette trompette, elle est dirigée. Le son est très aigu dans la direction où il va, et il frappe très fort les personnes vers lesquelles il est dirigé, ce qui peut les faire reculer et les amener à se demander « Que se passe-t-il ? » Cela provoque une alerte, etc. Dieu a donc utilisé la trompette. Il dit, tout au long de sa parole, qu'il a utilisé des trompettes. Maintenant, Dieu a utilisé toutes sortes d'autres instruments. Vous voyez, la Bible regorge de discussions sur toutes sortes d'instruments, mais il ne dit pas qu'il veut que nous examinions tous les instruments de la Bible aujourd'hui. Il dit qu'il veut que nous nous concentrions sur les endroits où les trompettes ont retenti. C'est comme s'il nous disait, « Allez-y, marquez dans votre Bible tous les endroits où les trompettes sont utilisées, souvenez-vous-en, puis tirez-en des leçons. » C'est donc ce que nous allons faire. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela aujourd'hui. La fête des trompettes est un jour où l'on se souvient de toutes les fois où Dieu a utilisé cet instrument puissant pour nous enseigner de grandes leçons. Alors, en lisant ces récits, réfléchissons profondément et tirons-en des leçons. Dieu veut que nous nous en souvenions pour une raison. N'oubliez pas que nous entrons dans les jours saints d'automne. C'est le premier jour saint de l'automne. Rassemblons-nous, faisons ensemble une grande étude biblique en quelque sorte, et méditons, réfléchissons et souvenons-nous vraiment de ces passages fondamentaux qui concernent les trompettes. Nous en tirerons quelques conclusions et nous les relirons à la fin du message, espérons-le, d'une manière si puissante que vous ne l'oublierez jamais. Passons donc au chapitre 19 de l'Exode pour le premier récit où l'on sonne les trompettes. Exode chapitre 19. Nous lisons ce récit la plupart du temps pendant les fêtes sacrées du printemps, y compris la Pentecôte, car c'est le récit où Moïse a reçu la loi de Dieu. Nous allons simplement le lire. Nous allons en discuter, nous allons tirer des conclusions, nous allons vraiment nous plonger dans le texte et comprendre pourquoi Dieu a utilisé des trompettes dans ce récit. Il les a utilisées, mais pourquoi ? Et mes frères, ne pensez pas que le fait que je tire certaines conclusions signifie que ce sont les seules conclusions que vous pouvez tirer de ces récits. Dieu veut que nous apprenions tous, et peut-être pourrez-vous tirer d'autres conclusions puissantes de ces récits sur les trompettes, au fur et à mesure que nous les parcourrons. Mais l'essentiel est de rester concentré et de méditer. Réfléchissez pendant que nous lisons ces paroles, les paroles de Dieu, réfléchissez à la raison pour laquelle Dieu a utilisé ces trompettes. Commençons par le verset 1 du chapitre 19 de l'Exode, au troisième mois, c'est-à-dire le mois de Sivan dans le calendrier sacré, après que les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, ils arrivèrent le même jour au désert de Sinaï. Ils étaient partis de Rephidim et étaient arrivés dans le désert du Sinaï, où ils avaient dressé leur tente. Israël campa là, devant la montagne. Vous devez donc comprendre, vous mettre dans le contexte. Israël est tout entier là, quel que soit le nombre de millions de personnes qui ont quitté l'Égypte, et ils sont sortis et se sont retrouvés devant cette montagne, le mont Sinaï. Moïse monta vers Dieu, et le Seigneur l'appela du milieu de la montagne, en disant, « Tu diras ainsi à la maison de Jacob et tu annonceras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. » Ces miracles puissants, la sortie d'Égypte, la fuite devant Pharaon et ses armées et la traversée de la mer Rouge, tout cela a culminé à ce moment puissant où Dieu a amené Israël devant lui sur cette montagne et où il dit maintenant à Moïse, « Je vous ai amené vers moi. » Maintenant donc, si vous obéissez vraiment à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un trésor particulier, au-dessus de tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Dieu voulait sanctifier Israël. Il voulait les mettre à part et les distinguer des nations à cause de ce qu'ils avaient fait dans leur vie. Ils obéissaient à Dieu, contrairement au monde qui ne connaissait pas Dieu et n'avait pas la loi de Dieu. Dieu voulait les séparer en utilisant ce moment puissant où il leur a donné sa loi. Il sanctifie Israël du reste du monde de cette manière. Je veux que vous deveniez un trésor particulier, un peuple particulier. Verset 6, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint donc appeler les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles que l'Éternel lui avait commandées. Tout le peuple répondit d'une seule voix et dit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Moïse est donc un personnage qui fait la navette entre Dieu et Israël. Il communique, il est le messager entre Dieu et Israël à ce stade. Et Israël accepta les conditions. Au verset 8, il est dit, « Nous ferons tout ce qu'il a dit. » Eh bien, nous savons qu'ils n'ont finalement pas respecté leur engagement. Peu après que la loi leur ait été donnée, ils ont construit ce veau d'or. C'est stupéfiant, mais continuons à lire. Nous n'en sommes pas encore au moment où les trompettes retentissent. Mais lisons le verset 9, et le Seigneur dit à Moïse, « Voici, je viens à toi dans une nuée épaisse, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il te croie pour toujours. » Moïse rapporta les paroles du peuple au Seigneur. Et le Seigneur dit à Moïse, « Va vers le peuple. Sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'il lave ses vêtements et se tienne prêt pour le troisième jour. Le troisième jour, l'Éternel descendra, aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras des limites au peuple tout autour, en disant, prenez garde à vous-même, de ne pas monter sur la montagne et de n'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Dieu est très sérieux ici. Il voulait fixer ses limites. Mettez-vous à la place d'Israël. Vous avez ces 2 jours pour vous laver, vous purifier, vous préparer à ce grand moment. Ce n'est pas comme si Dieu descendait soudainement. Vous avez déjà vécu des expériences où quelque chose de choquant vous est arrivé à l'improviste. C'est un type d'expérience. C'est tout autre chose lorsque vous anticipez. Lorsque l'anticipation s'accumule pendant 2 jours, et que le troisième jour, enfin, Dieu descend. L'anticipation s'est accumulée dans l'esprit d'Israël pendant 2 jours entiers, à penser et à se demander ce qui allait se passer lorsque Dieu descendrait sur cette montagne. C'est une expérience très différente de celle où Dieu aurait simplement décidé de descendre. L'accumulation de l'anticipation crée une certaine excitation d'une manière totalement différente de celle où cela se produirait simplement. C'est comme lorsque je vais pour chatouiller ma fille, je ne me contente pas de la chatouiller. Vous savez, c'est une chose. Elle rira des chatouilles si je me lance tout de suite, Mais c'est l'anticipation qui compte. Si j'attends, j'attends et j'attends, c'est presque insupportable. Elle ne peut pas le supporter, alors elle se met à courir partout en riant et en gloussant. Pensez-y d'un point de vue craintif avec Dieu. Israël a accumulé cette anticipation pendant 2 jours entiers avant le 3e jour où Dieu est venu. Au verset 12, « Et tu fixeras des limites au peuple tout autour, en disant, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Nul ne doit la toucher, sinon il sera lapidé ou transpercé d'une flèche. Si vous voulez, que ce soit une bête ou un homme, il ne vivra pas. Quand la trompette sonnera longuement, ils monteront sur la montagne, mais ne touchez pas la montagne. Montez jusqu'à la limite, en gros. Vous ne pouvez pas aller plus loin que la limite. Mais la trompette était le signal indiquant qu'Israël pouvait alors s'approcher de cette limite. Maintenant, que pouvons-nous apprendre de ce récit ? Moïse descendit de la montagne vers le peuple, sanctifia le peuple, et il lavèrent leurs vêtements. Il dit au peuple, « Soyez prêts pour le 3e jour, ne vous approchez pas de vos femmes. » Et le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres et des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne, et la voix de la trompette retentit si fort que tout le peuple qui était dans le camp trembla. Et Moïse fit sortir le peuple du camp pour rencontrer Dieu. Il rencontre Dieu. Réfléchissez à cela. Mes frères, vous et moi conversons avec Dieu chaque jour, mais je vois physiquement Dieu descendre sur cette montagne. C'est quelque chose qu'aucun d'entre nous n'a jamais vécu. Nous n'avons jamais vu Dieu atterrir sur une montagne auparavant. Avec une épaisse obscurité, des nuages et le son d'une trompette retentissante, accompagnée d'éclairs. La chose la plus proche que je puisse, en essayant d'imaginer cette scène, la chose la plus proche que je puisse imaginer, c'est presque comme si un volcan était entré en éruption. Vous avez vu des photos de volcans où les cendres, cette épaisse colonne de cendres jaillit du sommet d'un volcan, recouvrant le sommet de la montagne avec un bruit énorme. On peut même voir des éclairs dans les nuages de cendres. C'est ce qui s'en rapproche le plus. Si vous pouviez imaginer un volcan comme le Krakatoa en éruption. Lorsque le Krakatoa est entré en éruption dans les années 1800, à la fin des années 1800, on pouvait entendre le bruit à 1600 miles de distance. Ne pensez-vous pas que Dieu qui sonne de la trompette ici, ou que sa voix était comme une trompette, que des trompettes ont également été sonnées, ne pensez-vous pas que cela pouvait être entendu à de très grandes distances? Bien sûr que oui. À 2500 km lorsque le Krakatoa est entré en éruption, c'est presque la distance entre Los Angeles et Chicago, si vous connaissez la distance aux États-Unis. De Los Angeles à Chicago. Les habitants de Chicago auraient pu entendre le Krakatoa entrer en éruption à Los Angeles si tel avait été le cas. C'est stupéfiant à imaginer, mais imaginez un volcan. C'est similaire à cela à certains égards, avec la fumée, le bruit, les éclairs, mais ajoutez à cela un volcan qui entre en éruption, des trompettes qui retentissent, et tout Israël qui se tient là, indemne, alors que le volcan va faire du mal à tous ceux qui se trouvent en dessous. Je suis allé à Pompéi. En Italie, lorsque vous vous promenez dans la ville de Pompéi et que vous voyez ces personnes qui, ces momies, ces pétrifiés, en gros des gens qui sont couchés là, comme de la pierre, ils ont été frappés par cet énorme volcan. Tout le panache de cendres s'est abattu sur eux et les a tous brûlés, détruisant la ville à ce moment-là. Et nous pouvons aller là-bas et voir cela aujourd'hui, mais Israël n'a pas été touché par cela. C'était un volcan qui n'a causé aucun dommage à Israël ou aux régions environnantes. Il n'a pas explosé de la montagne, mais c'était Dieu qui descendait sur la montagne dans cette fumée et ses éclairs massifs. Et la voix de la trompette était très forte, à la fin du verset 16, de sorte que tout le peuple qui était dans le camp tremblait. Tremblait. Ce mot « trembler » signifie qu'il frissonnait de terreur et de peur, frissonnait de terreur et de peur. Moïse fit sortir le peuple du camp pour rencontrer Dieu, et ils se tinrent au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était entièrement enfumée, car le Seigneur y était descendu dans le feu, et la fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fortement. Et lorsque la voix de la trompette retentit longuement, puis devint de plus en plus forte, Moïse parla, et Dieu lui répondit par une voix. Et le Seigneur descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne, et le Seigneur appela Moïse au sommet de la montagne. Et Moïse monta. Et le Seigneur dit à Moïse, « Descends et avertis le peuple, de peur qu'il ne se précipite vers le Seigneur pour le contempler, et que beaucoup d'entre eux ne périssent. Que les prêtres qui s'approchent du Seigneur se sanctifient, de peur que le Seigneur ne se déchaîne contre eux. » Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne peut monter sur le mont Sinaï, car tu nous as donné cet ordre, en disant, « Établis des limites autour du mont, et sanctifie-le. » L'Éternel lui dit, « Descends, et monte, toi et Aaron avec toi. » Mais que les prêtres et le peuple ne franchissent pas les limites pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne se déchaîne contre eux. Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Puis, au verset 20 du chapitre, Dieu prononça toutes ces paroles, en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, et il énonça les 10 commandements. » C'est la première mention des trompettes que nous voyons dans la Bible. Maintenant, quelle était la puissance des trompettes et des bruits provenant du Sinaï lorsque Dieu a donné la loi? Suffisamment puissant pour terrifier complètement et totalement tout Israël qui savait, soit dit en passant, que Dieu était de leur côté. Ils étaient terrifiés par Dieu, sachant que Dieu était avec eux. Ils étaient encore terrifiés jusqu'à la moelle. Ils avaient la crainte de Dieu. Passons au chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux pour approfondir un peu plus cette question. Chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Hébreux 12, verset 18. Verset 18, Hébreux 12. Car vous n'êtes pas venu vers une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. S'adressant ici aux Hébreux, s'adressant de manière générale aux Hébreux, nous faisons référence au récit de l'Exode 19 que nous venons de lire. Vous n'êtes pas venu vers cette montagne qui ne devait pas être touchée, ou qui pouvait être touchée, mais qui ne devait pas l'être, et qui était embrasée par le feu, ni vers les ténèbres, l'obscurité et la tempête. Ce sont toutes les choses qui se sont produites ce jour-là. Et le son d'une trompette, et la voix des paroles, que ceux qui l'entendaient suppliaient de ne plus leur être adressés. Car ils ne pouvaient supporter ce qui leur était commandé. Et si une bête touchait la montagne, elle devait être lapidée ou transpercée d'un dard. Et le spectacle était si terrible que Moïse, pas seulement Israël, mais Moïse, dit « Je suis extrêmement effrayé et tremblant ». Ce mot « terrible » signifie ici « effrayant » ou « redoutable ». Le spectacle était si effrayant que même Moïse était effrayé et tremblé. Mais nous venons aux mentions lorsque nous prions, à la ville du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste, etc. Ce récit dit donc que nous ne venons pas devant le mont, nous venons devant le mont Sion et le ciel maintenant. Nous ne nous présentons pas devant ce site terrifiant sur terre où Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Moïse était terrifié et extrêmement effrayé et tremblant. Le mot grec signifie « hors de soi ». Il était tellement terrifié qu'il était hors de lui. Avez-vous déjà eu aussi peur de quelque chose? Pensez-y. Vous avez eu tellement peur de quelque chose que vous en êtes presque resté figé. Vous ne savez pas quoi faire, ou vous êtes tellement nerveux à propos de quelque chose que vous en restez figé. Vous ne savez pas comment réagir, comment gérer la situation. Vous avez peut-être déjà eu le trac, mais là, c'est mille fois pire. Dieu a utilisé des trompettes à ce moment critique au Sinaï. Et encore une fois, je pose la question, pourquoi? Eh bien, nous avons en quelque sorte vu la réponse. Si vous y avez réfléchi, si nous y réfléchissons, la raison pour laquelle Dieu a utilisé des trompettes ici et la signification des trompettes dans ce récit est la leçon que Dieu veut que nous le craignions. Il veut que nous le craignions. Dieu ne veut pas que, en ce jour des trompettes, nous nous contentions de nous asseoir, de profiter d'un repas et de passer à autre chose. Il veut que nous lisions ces récits afin d'en tirer des leçons. Et la leçon de ce récit, la plus grande leçon que l'on puisse en tirer, ou l'une des leçons que l'on peut en tirer, est que Dieu a utilisé des trompettes pour instiller une certaine crainte et une certaine terreur chez ceux qui les ont vus et entendus. Même si, c'était une sorte de crainte, même si Israël savait que Dieu était de son côté. Imaginez la crainte que vous auriez si vous saviez que c'est le Dieu qui vient vers vous et contre vous parce qu'il vous punit. Il y a aussi de la crainte là-dedans. Mais c'est une leçon puissante que nous devons tirer de ce récit. Et c'est la première dont nous allons discuter aujourd'hui. Passons au chapitre 5 de Josué pour la suivante. Le récit suivant complète et développe cette idée de peur. Jéricho, lorsque les murs sont tombés dans le chapitre 5 de Josué. Revenons-y. Silence. Lisons donc ce récit. Quelle leçon pouvons-nous tirer du récit de Jéricho lorsque les murs sont tombés? Reprenons au verset 13. Josué 5, verset 13. Et il arriva, lorsque Josué était près de Jéricho, qu'il leva les yeux et regarda, et voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main, et Josué alla vers lui. Nous savons qu'il s'agit du Christ. Christ était cet homme avec une épée à la main. Josué s'approcha de lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos adversaires ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, et je viens maintenant. » Et aussitôt Josué sut à qui il avait affaire. Il parlait au Christ. Josué tomba face contre terre, se prosterna et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Et le chef de l'armée du Seigneur dit à Josué, encore une fois, appelé par ce nom. Le chef de l'armée du Seigneur dit à Josué, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Maintenant, chapitre 6, verset 1. Or, Jéricho était fermé et verrouillé à cause des enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et le Seigneur dit à Josué, ils assiégeaient cette grande ville appelée Jéricho. Et l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, et ses vaillants guerriers. Vous, tous les hommes de guerre, vous entourerez la ville une fois. Vous ferez ainsi pendant 6 jours. Prends tous ces Israélites et fais le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours consécutifs. 7 prêtres porteront devant l'arche 7 trompettes en cornes de bélier, et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront des trompettes. Et il arrivera, quand ils feront retentir la trompe de cornes de bélier, et quand vous entendrez le son de la trompe, que tout le peuple poussera un grand cri, et les murs de la ville s'écrouleront, et le peuple montera, chacun droit devant lui. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit, prenez l'arche de l'Alliance. Car à cette époque, ils transportaient encore l'arche de l'Alliance. C'était avant la construction du temple de Salomon. L'arche d'Alliance était l'endroit où nous venons de voir que les 10 commandements avaient été donnés au Sinaï. Ces 10 commandements étaient transportés. Ils étaient en fait la seule chose qui était conservée à l'intérieur de cette arche d'alliance. Et l'arche d'alliance était l'endroit où ils conservaient les 10 commandements, ainsi que le livre de la loi, dans une pochette sur le côté. Ils transportaient donc l'arche d'alliance avec eux à ce moment-là. Josué les guidait. Prenez l'arche d'alliance, et que sept prêtres portent cette trompette en corne de bélier devant l'arche du Seigneur. Et il dit au peuple, passez, et encerclez la ville, et que ceux qui sont armés passent devant l'arche du Seigneur. Et il arriva, lorsque Josué eut parlé au peuple, que les sept prêtres portant les sept trompettes en corne de bélier passèrent devant le Seigneur, et sonnèrent des trompettes, et l'arche de l'alliance du Seigneur les suivit. Et les hommes armés marchèrent devant les prêtres qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivit l'arche, et les prêtres marchèrent et sonnèrent des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point de bruit, et aucun mot ne sortira de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Quelle déclaration puissante! Tout Israël encercle cette ville. Vous pouvez imaginer les habitants de Jéricho monter au sommet de leur rempart et se demander, mais que se passe-t-il donc ici? Et ils restent silencieux, marchant autour de la ville, l'encerclant 6 fois, un jour. Puis le lendemain. Parlons d'anticipation. Dieu crée ici une anticipation incroyable pour ces gens de Jéricho. Pouvez-vous imaginer ce qu'ils pensent? Que font-ils? Que vont-ils faire? Que se passe-t-il ici? Et pendant 6 jours d'affilée, ils voient la même chose se répéter, un silence de mort, des gens qui marchent autour de Jérusalem. Verset 11. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, en la parcourant une fois, puis ils rentrèrent au camp et y passèrent la nuit. Josué se leva de bon matin, et les prêtres prirent l'arche de l'Éternel. 7 prêtres portant 7 trompettes en corne de bélier marchaient devant l'arche de l'Éternel, sonnant continuellement des trompettes, et les hommes armés marchaient devant eux, tandis que l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel, les prêtres marchant et sonnant des trompettes. Le 2e jour, ils firent le tour de la ville et firent la même chose. Ainsi, la seule chose que les habitants de Jéricho entendent, ce sont les trompettes et un silence de mort, tout le reste, à l'exception peut-être du piétinement d'une foule nombreuse autour de la ville. Verset 14. Le 2e jour, ils firent une fois le tour de la ville, puis retournèrent au camp, et ainsi de suite pendant 6 jours. Et le 7e jour, après toute cette anticipation, après toute cette peur. Pouvez-vous imaginer la peur qui s'était accumulée à Jéricho à ce moment-là? La même chose. Dieu utilise les trompettes pour instiller la peur dans le cœur de ceux qui ne sont pas de son côté, mais contre lui. Jéricho est le contraire. Lorsque vous avez entendu le son des trompettes au Sinaï, Dieu a dit, « Vous pouvez vous approcher de moi ». C'était encore un événement terrifiant, mais au moins Israël savait qu'il était du côté de Dieu. Ici, lorsqu'ils ont entendu le son des trompettes à Jéricho, ils ne pensaient pas que Dieu était de leur côté, ni d'Israël, d'ailleurs. Verset 15. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin et firent 7 fois le tour de la ville de la même manière, mais ce jour-là seulement, ils firent 7 fois le tour de la ville. Ainsi, au 7e jour, les habitants de Jéricho regardent autour d'eux et se disent que quelque chose a changé. Et cela renforce encore davantage l'anticipation de ce qui va se passer. Et il arriva, à la 7e fois, lorsque les prêtres sonnèrent des trompettes, que Josué dit au peuple, « Criez, car l'Éternel vous a livré la ville. Et la ville sera vouée à l'anathème, elle et tout ce qui s'y trouve, devant l'Éternel. Seul Réhab la prostituée aura la vie sauve, elle et tous ceux qui sont avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Et vous, gardez-vous bien de toucher à ce qui est maudit, de peur que vous ne vous rendiez maudit, en prenant de ce qui est maudit, et que vous ne rendiez le camp d'Israël maudit et ne le troubliez. Mais tout l'argent, l'or, les objets d'airain et de fer sont consacrés à l'Éternel. Ils entreront dans le trésor de l'Éternel. Alors le peuple poussa des cris quand les prêtres sonnèrent des trompettes, et il arriva, lorsque le peuple entendit le son des trompettes, que le peuple poussa un grand cri, et les murs s'écroulèrent, de sorte que le peuple monta dans la ville, chacun droit devant lui, et ils prirent la ville. Et ils détruisirent complètement la ville. Et le récit continue à partir de là. Jéricho fut complètement pillé. Et puis, dans le chapitre suivant, bien sûr, Israël désobéit. Achan prit des choses maudites, alors que Dieu avait dit, « Ne prenez rien, car tout est maudit, sauf Rahab et sa famille. » Et vous connaissez la suite de l'histoire, Achan fut lapidé avec sa famille, etc. Eh bien, c'est encore une fois un exemple puissant de la façon dont Dieu veut que nous le craignions. La crainte de Dieu est profondément associée aux trompettes. Rien qu'en entendant ce mot, je veux dire, quand nous entendons les sirènes retentir ici en Amérique, dans différents états, je suis sûr qu'il y a des sirènes qui retentissent de différentes manières. Lorsqu'une tornade approche ou que le temps est violent, ces sirènes peuvent instiller la peur dans le cœur des gens parce qu'ils savent ce qui va arriver. Ils savent ce qui va potentiellement arriver. Je me souviens, quand je vivais dans l'Iowa, c'était ce qu'on appelle la Tornado Alley, la partie nord de la zone des tornades. Chaque fois que nous entendions une sirène retentir, ce qui arrivait régulièrement pendant l'été, je savais que notre maison risquait d'être détruite. Cela ne s'est jamais produit, car les tornades ne sont jamais passées exactement là où nous vivions, mais je connais beaucoup de gens qui ont été touchés. Ma grand-mère vivait dans une ville qui a été dévastée par une tornade. Quand vous entendez ces sirènes, quand vous entendez un coup de trompette, vous savez que quelque chose de terrible va se produire. Vous savez que la crainte de Dieu est désormais ancrée en vous, et c'est ce qu'ont vécu les habitants de Jéricho. Il y a un autre point, outre la crainte, que nous pouvons tirer de ce récit, Jéricho. Cela s'est produit pendant les jours des pains sans levain. Pensez à la chute des murs le septième jour, c'est un autre récit des jours des pains sans levain, si vous voulez. C'est le septième jour que tous les murs se sont effondrés. Cela introduit également le sujet ou le concept de l'humilité. À l'heure actuelle, le monde est entouré de ces grands murs d'orgueil, si vous voulez. Et un jour, Dieu va abattre tous les murs de l'humanité. Il va en fait abattre physiquement tous les murs de l'humanité au jour du Seigneur. Spirituellement parlant, il va abattre l'esprit et le cœur des gens en les rendant humbles, en les rabaissant, si vous voulez, en leur montrant qu'ils sont très petits, qu'ils sont minuscules aux yeux de Dieu à certains égards. Le fait est que, outre le son des trompettes, qui instille la crainte de Dieu dans le cœur des gens dans ce récit, celui-ci commence également à introduire l'idée de s'humilier soi-même. Lorsque vous entendez une trompette, cela vous rend humble, car cela montre la puissance de Dieu. Lorsque vous voyez la puissance de Dieu, vous êtes émerveillé et vous réalisez à quel point vous êtes petit et insignifiant. Quand Israël se trouvait devant le Sinaï, oui, ils étaient terrifiés, mais on pourrait dire qu'ils étaient aussi écrasés d'une certaine manière. Ils sont devenus humbles. Ils ont levé les yeux vers l'énorme nuage de fumée, les éclairs, les trompettes et tout ce qui se passait. Et ils se sont probablement regardés et se sont dit, « Oh là là, je ne suis vraiment rien. » Mais là encore, on pourrait dire que non, ils n'ont pas appris cette leçon, car ils sont allés construire le veau juste après, mais c'est une autre histoire. L'idée est que la puissance immense de Dieu, manifestée par le son des trompettes, a pour but de nous rendre humbles. De nous rendre humbles. Passons au chapitre 6 du livre des Juges. Nous parcourons actuellement la Bible. Nous avons commencé par l'Exode, puis nous avons continué avec Jéricho et Josué. Nous passons maintenant au livre des Juges, et nous allons lire le récit de Gédéon. Quelle leçon pouvons-nous tirer du récit de Gédéon et de son armée? Le récit commence à certains égards au chapitre 6. Nous n'avons pas besoin de parcourir le chapitre 6, mais tout ce que vous devez savoir du chapitre 6, c'est que... Eh bien, lisons simplement le verset 1 du chapitre 6. Il prépare le terrain pour le chapitre 7. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. D'accord, ils ne sont donc pas dans les bonnes grâces de Dieu. C'est le premier point. Deuxièmement, parce qu'ils firent ce qui déplaît, l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Tout le chapitre 7 parle de la supériorité de Madian, des Madianites, et au verset 7, il y a un changement de pensée, d'esprit et d'attitude. Il est dit, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel à cause des Madianites, l'Éternel envoya un prophète qui commença à écouter Israël et à se tourner vers eux. Passons au chapitre 7 et lisons l'histoire de l'armée de Gédéon et comment Dieu les a délivrés avec un petit nombre de personnes. Pourquoi Dieu a-t-il utilisé? Nous connaissons le récit. Je vais simplement présenter le récit avec cette question. Pourquoi Dieu a-t-il utilisé 300 personnes? Pourquoi a-t-il choisi de réduire l'armée à un groupe aussi restreint? Est-ce parce qu'il voulait montrer sa puissance? Oui. Regardez ceci, chapitre 7, verset 1, alors Jérubbaal, qui est Gédéon. C'était un autre nom pour Gédéon, et tout le peuple qui était avec eux se levèrent de bon matin et campèrent près du puits d'Hérode, de sorte que l'armée des Madianites était au nord d'eux, près de la colline de Morée, dans la vallée. Et l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre les Madianites entre leurs mains, de peur qu'Israël ne se vante contre moi en disant, « Ma propre main m'a sauvé. » Alors pourquoi Dieu voulait-il réduire l'armée? Parce qu'il voulait qu'Israël puisse dire, « C'est Dieu qui a fait cela, pas moi. » Dieu voulait aplanir l'esprit des Israélites. Il voulait les rendre humbles. Il voulait qu'ils soient humbles face au fait qu'ils ne faisaient rien. Ils n'avaient aucun rôle à jouer dans cela, c'était strictement Dieu qui avait fait cela. Lisons un peu plus loin pour voir comment Dieu a choisi ces personnes, ce qui est fascinant à considérer. Maintenant, allez proclamer aux oreilles du peuple, que celui qui a peur et qui est effrayé s'en retourne. C'est le premier groupe de personnes que Dieu appelle. Il dit, que celui qui a peur et qui est effrayé s'en retourne et quitte rapidement le mont Galad. En fait, ce qu'il dit, c'est, écartez toutes les personnes les plus faibles, celles qui ont peur, celles qui n'ont pas le courage d'aller à la guerre, écartez toutes les personnes les plus faibles du champ de bataille pour commencer. Je ne veux garder que les personnes les plus fortes, celles qui n'ont pas peur, ce qui est intéressant. Il ne veut pas utiliser les plus faibles, il veut seulement utiliser les plus forts dans cette petite armée lors du premier appel. Et 22 000 hommes revinrent, et il en resta 10 000. Ainsi, plus des 2/3 de ce groupe de personnes en Israël avaient peur, et les 2/3 les plus faibles furent appelés, laissant 10 000 personnes. Et le Seigneur dit à Gédéon, « Ces gens sont encore trop nombreux. Je ne peux toujours pas laisser ces 10 000 personnes plus fortes affronter les Madianites seules, sinon elles continueront à penser qu'elles ont fait cela elles-mêmes. Elles continueront à penser que c'est par ma main qu'elles ont pu faire cela. Elles ne seront pas humbles. Elles ne verront pas encore ma puissance à travers cela. » Fais-les descendre, au milieu du verset 4, Fais-les descendre dans l'eau, et là, je les mettrai à l'épreuve pour toi. Et ceux dont je te dirai, ceux-ci iront avec toi, iront avec toi. Et celui dont je te dirai, celui-ci ne t'accompagnera pas, celui-là ne t'accompagnera pas. Il fit donc descendre le peuple dans l'eau, et le Seigneur dit à Gédéon, tous ceux qui l'appellent avec leur langue comme le fait un chien, tu les mettras à part, ainsi que tous ceux qui s'agenouillent pour boire. Il y aura deux catégories de personnes. Il y aura ceux qui s'accroupiront et boiront l'eau comme ceci. Et il y aura ceux qui s'agenouilleront dans l'eau et la boiront directement. Tu vas noter ces personnes, noter dans quelle catégorie elles se trouvent, et les séparer. Le nombre de ceux qui ont la paix en portant leurs mains à leur bouche était de 300 hommes. Il y avait 300 hommes qui ont décidé d'aller boire l'eau de cette manière. Dieu a dit, mais le reste du peuple s'est agenouillé pour boire l'eau. Le Seigneur a dit à Gédéon, par les 300 hommes qui ont la paix, je vous sauverai. Monsieur Pack a expliqué cela, et c'est tout à fait logique. Les personnes qui ont la paix, celles qui étaient à genoux, n'étaient pas prêtes pour la bataille. Réfléchissez-y. Si vous faites partie d'une armée, la dernière chose dont vous avez besoin, c'est de quelqu'un qui est à genoux, incapable de se relever rapidement de l'eau, etc. Les personnes qui lappent sont théoriquement les plus compétentes, les plus capables, les plus avisées. Elles sont prêtes pour la bataille. Elles sont là et boivent ainsi, les yeux levés, potentiellement. Dieu a déjà éliminé les deux premiers tiers des personnes qui étaient les plus craintives et les plus faibles. Maintenant, il élimine les 10 000 restants, il a éliminé la grande majorité d'entre eux qui étaient aussi les plus faibles. Il lui reste donc, en théorie, les 300 hommes les plus puissants. Et qu'a fait Dieu avec ces 300 hommes puissants? A-t-il décidé de leur donner à tous des armes pour qu'ils partent avec des battes et combattent les Madianites avec leurs propres épées, leurs chevaux, etc. Eh bien, voyons voir. Comment a-t-il utilisé ces hommes puissants? Verset 5. Il acheta donc. Bon, nous sommes descendus, pardon. Verset 8. Le peuple prit des vivres et des trompettes, et renvoya à tout le reste d'Israël, chacun dans sa tente des, et garda ses 300 hommes. L'armée de Madian était en bas, dans la vallée. Et cette même nuit, le Seigneur lui dit, « Lève-toi, descends vers l'armée, car je la livre entre tes mains. Mais si tu crains de descendre, descends avec Phura, ton serviteur, vers l'armée, et tu entendras ce qu'ils diront, et ensuite, tes mains seront fortifiées pour descendre vers l'armée. Ainsi, que tu aies peur ou non, si tu descends, Phura t'aidera et tu seras encouragé. Et alors, tu viendras réellement combattre. » Verset 11. « Et tu entendras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées pour descendre vers l'armée, et ainsi de suite. » Verset 12. « Et les Madianites, les Amalécites et tous les enfants d'Israël, les enfants de l'Orient, s'étendaient dans la vallée comme des sauterelles, tant ils étaient nombreux. C'est ce à quoi ils étaient confrontés. Ces 300 hommes puissants, les plus capables, allaient affronter une multitude semblable à des sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable de la mer en multitude. Et lorsque Gédéon vint pour voir, il y avait un homme avec eux. Un homme qui... Bon, il y a eu un rêve. Nous allons passer le verset 15. Et quand Gédéon eut entendu le récit du rêve et son interprétation, il se prosterna, retourna dans le camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il encourage donc ses 300 hommes en leur disant, « Grâce à ce rêve, je sais avec certitude que Dieu est avec nous, qu'il nous livrera ses 300 hommes au combat et que nous vaincrons. » Il divisa les 300 hommes en trois compagnies et leur donna des trompettes. Que leur donne-t-il? Il leur donne des trompettes. Car souvenez-vous, il fallait que des trompettes soient mentionnées dans ce récit, sinon nous n'aurions pas de drapeau à lire sur les trompettes. Il donna à chacun une trompette dans une main, et des cruches vidées des lampes à l'intérieur des cruches. Mais Gédéon, où est mon épée? Où est ma hache? Où est mon canon? Où est mon AR-15? Rien. Absolument rien. On leur donne une trompette et une cruche, qui est comme un récipient en terre cuite, une sorte de jarre avec une lampe à l'intérieur. Ils se demandent probablement, pourquoi avons-nous été choisis pour cela? Quoi qu'il en soit, les 300 hommes les plus compétents n'ont pas reçu d'armes. On leur a donné ces outils pour, en quelque sorte. Je vais simplement résumer le récit à partir de là. On leur a donné ces outils. Ils devaient entrer, souffler dans ces trompettes, terrifier les Madianites et briser les pots. C'était tout ce qu'ils devaient faire. Et Dieu ne voulait pas qu'ils y aillent avec des armes, pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'ils soient humiliés par cela. Dieu voulait montrer sa puissance. Il voulait montrer que ces gens ne pouvaient rien faire, même s'ils étaient les plus puissants. C'était probablement humiliant pour les plus puissants de dire « Oh là là, je vais au combat avec un pot, et je dois casser le pot. Je dois briser le pot. » Ils se demandent « Quoi ?» Eh bien, la raison en est que Dieu voulait qu'ils soient humiliés, écrasés, au cours de cet événement extraordinaire. Les trompettes ici étaient donc similaires à celles de Jéricho et du Sinaï, dans la mesure où elles inspiraient la peur à l'ennemi. C'est vrai. Ce concept de peur et de trompette est donc toujours présent dans ce récit. Mais la leçon supplémentaire est qu'il symbolisait l'humilité dont Israël a fait preuve en s'appuyant sur Dieu plutôt que sur lui-même pour vaincre ses nombreux ennemis. Vous savez, parmi tout cela, juste une petite parenthèse, une petite digression sur l'humilité. On pourrait faire tout un sermon sur ce sujet, mais la plus grande chose que vous puissiez faire en tant que chrétien se résume en fait à une seule chose. La plus grande chose que vous puissiez faire en tant que chrétien, c'est d'être disposé à apprendre. Si vous êtes disposé à apprendre, tout vous est possible. Si vous vous humiliez et que vous réalisez que « je ne suis vraiment rien, je ne peux rien faire par moi-même », et que vous réalisez que vous n'avez aucune idée de vous-même, et que vous êtes prêt à être ouvert d'esprit aux vérités que Dieu a pour nous, vous êtes ouvert d'esprit à être corrigé parfois, vous êtes ouvert d'esprit à... et vous êtes plat. Vous vous voyez à vos propres yeux comme étant suffisamment petit. Mes frères, avec une telle mentalité, le ciel est votre seule limite en tant que chrétien. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être disposé à apprendre. C'est en quelque sorte la leçon que Dieu essayait d'enseigner à Israël ici. Soyez simplement humble. Si vous pouvez être humble, le ciel est votre seule limite. Si vous pouvez vous humilier, le ciel est votre seule limite. Vous pouvez aller n'importe où. Dieu peut vous emmener vers des sommets vertigineux, et il finira par vous accueillir dans sa famille grâce à cela. Mais ce n'est qu'un détail. Bon. Voilà donc les premières grandes leçons tirées de l'Ancien Testament. Parlons maintenant de la prophétie. Passons au chapitre 6 de l'Apocalypse. Vous savez, les monuments commémoratifs dans la parole de Dieu sont différents des monuments commémoratifs pour l'humanité. Les monuments commémoratifs pour l'humanité, les gens érigent des monuments commémoratifs pour des personnes, des événements ou des lieux qui ont marqué l'histoire. On érige un mémorial pour quelque chose qui s'est déjà produit afin d'essayer de se souvenir de ce qui s'est passé. Mais comme la Bible est écrite de telle manière que tout ce qu'elle contient est vrai, Dieu veut que nous nous souvenions non seulement des événements qui se sont produits dans l'histoire, mais aussi de ceux qui se produiront dans la prophétie, car à ses yeux, ils font partie de l'histoire. Les prophéties sont aussi certaines de se réaliser que tout ce qui s'est déjà produit dans l'histoire. Nous pouvons donc commémorer les événements futurs de la même manière que nous commémorons les événements passés, car ils sont tout aussi certains de se produire. Prenons donc un moment pour réfléchir et passer en revue les événements prophétiques qui vont se produire, ceux qui impliquent les trompettes. Nous savons, en résumant ici une partie du livre de l'Apocalypse, que nous n'allons pas nous attarder sur tous les détails. Nous allons simplement lire certaines des plaies des trompettes et en tirer quelques leçons importantes. Le livre de l'Apocalypse met en évidence une grande partie de la période terrible avec la bête et le faux prophète et toutes ces choses, ainsi que les sceaux du chapitre 6. Et vous voyez tous les sceaux qui apparaissent. L'un des sceaux, au chapitre 6, verset 1, était le cheval blanc, et le deuxième sceau était le cheval rouge de la guerre. Le troisième sceau est apparu avec un cheval noir de la famine. Le quatrième sceau, au verset 7, était le cheval pâle de la maladie. Et vous arrivez au verset 9, et j'ouvris le cinquième sceau, et je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, et ils criaient, etc. et ils devaient se reposer un peu de temps, au verset 11. Jusqu'à ce que fût accompli le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ainsi, tous ces sceaux sont brisés au cours des trois dernières années et demie de tribulation avant le millénaire. Et lorsque vous arrivez au verset 12, vous avez le sixième sceau, qui nous amène au début du jour du Seigneur. Et je vis, lorsqu'il ouvrit le sixième sceau, qu'il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Nous voyons ici les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Le sixième sceau, quand il fut roulé, toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place, et tous les rois de la terre, et elles, les grands, les riches, les chefs militaires, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône, et de la colère de l'agneau. » Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Qui peut subsister? C'est l'introduction au jour du Seigneur. C'était le sixième sceau. Maintenant, passons le chapitre 7, qui est en quelque sorte un intermède. Passons directement au chapitre 8, où nous voyons le septième sceau s'ouvrir. De quoi parle le septième sceau? Quand il eut ouvert le septième sceau, il y eut un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure. Imaginez ce que vous voyez ici. Le sixième sceau concernait le ciel, qui était remplacé. Tout changeait sur terre. Les montagnes étaient déplacées. Il y avait de grands tremblements de terre. Le ciel se retirait et se roulait comme un livre. Et tous ces gens avaient peur et essayaient de se réfugier sous les rochers des montagnes. Imaginez cette scène. Mettez-vous à la place de ces gens alors que la terre, tout change autour d'eux. Et puis, que se passe-t-il ensuite? Le silence règne dans le ciel pendant une demi-heure. C'est comme si tout s'était arrêté. Tout s'est arrêté. Vous savez, j'ai envisagé pendant la première demi-heure de ce message de rester assis en silence, puis de sonner de la trompette après une demi-heure. Mais je me suis dit que ce n'était probablement pas une bonne utilisation de mon temps, juste pour faire de l'effet. Mais pouvez-vous imaginer rester assis pendant une demi-heure? Nous en sommes à environ une heure, un peu plus d'une heure dans ce message, et une demi-heure. Comme si vous preniez ce message et le coupiez en deux, et pendant ce laps de temps, il y avait un silence de mort au ciel. Revenez à la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, pendant une minute. Vous vous demandez peut-être si une demi-heure de silence au ciel suggère que le ciel faisait beaucoup de bruit, n'est-ce pas? Parce qu'en ce moment, je regarde le ciel et je me dis, ce n'est pas grave s'il y a du silence au ciel maintenant, mais pourquoi est-ce si grave s'il y a du silence au ciel pendant une demi-heure à ce moment crucial de la prophétie? C'est parce que les cieux faisaient beaucoup de bruit avant cela. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, nous allons lire. Attendez une seconde, je cherche. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, où les cieux passeront avec un grand bruit. Bon, maintenant nous comprenons pourquoi il y a eu un silence dans le ciel pendant une demi-heure, car les cieux faisaient un bruit énorme lorsque Dieu les a enroulés comme un parchemin. Ce n'est pas comme s'ils avaient été remplacés en silence. Ils ont explosé dans un grand fracas, c'est ce que signifie le mot « bruit ». Les éléments fondront dans une chaleur ardente, et la terre et toutes les œuvres qui s'y trouvent seront brûlées. Revenons donc au chapitre 7 de l'Apocalypse. C'est dans ce contexte que nous voyons cette demi-heure de silence. Que se passe-t-il immédiatement après cette demi-heure? Passons au verset 6. Et les sept anges, qui avaient leurs sept trompettes, se préparèrent à sonner. Et le premier ange sonna. Au verset 7, « Il eut de la grêle et du feu mêlé de sang. Ils furent jetés sur la terre, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Ainsi, après les bruits fracassants de l'avènement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, il y a un silence de mort pendant une demi-heure. Qu'est-ce qui suit ce silence? Qu'est-ce qui rompt ce silence? Un coup de trompette. Dieu sonne de la trompette afin de rompre ce silence massif sur la terre et dans les cieux. Et ainsi, nous voyons se succéder les fléaux des trompettes. Vous avez entendu parler des sceaux et des fléaux des trompettes, ainsi que des sept derniers fléaux, qui sont décrits comme une sorte de poupée russe. Si vous connaissez les poupées russes, il y a sept sceaux et le septième sceau correspond aux sept fléaux de la trompette. Nous allons passer en revue quelques-uns de ces fléaux de la trompette dans une minute. Et le septième fléau de la trompette, niché à l'intérieur du septième fléau de la trompette, correspond aux sept derniers fléaux, aux sept dernières coupes. Toutes ces trompettes, soit dit en passant, se trouvent dans le jour du Seigneur. C'est pourquoi Sophonie l'appelle. Je pense que c'est dans Sophonie 1, verset 16. Il l'appelle le jour de la trompette et de l'alarme. Dieu veut que nous nous concentrions sur le jour du Seigneur parce que, en ce jour des trompettes, parce qu'il est appelé le jour de la trompette. Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce jour de la trompette et de l'alarme? Continuons à lire rapidement les fléaux ici. Au verset 8. Et le deuxième ange sonna. Le fléau de la trompette. Et comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient la vie moururent. Et le tiers des navires fut détruit. Et le troisième ange sonna de la trompette, et une grande étoile, ardente comme un flambeau, tomba du ciel, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile était Absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux, parce qu'elle était devenue amère. Et le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé. Et la troisième partie de la lune et la troisième partie des étoiles furent obscurcies, et le jour ne brilla pas pour la troisième partie, et la nuit de même. Et je vis un ange qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres voix de la trompette des trois anges, qui doivent encore sonner. » Au chapitre 9, détail au verset 1, le cinquième ange. Et au verset 13, le sixième ange. Respectivement, le cinquième ange est le premier malheur et le sixième ange est le deuxième malheur. Et il faut passer directement au chapitre 11, verset 14, pour arriver au moment où l'on voit le septième ange et le troisième malheur. Nous voici donc au verset 14. Le deuxième malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient rapidement. Et le septième ange sonna. Que se passe-t-il à la fin de ces sept fléaux de trompette? Le septième ange sonna. Et il y eut dans le ciel de grandes voix qui disaient, « Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Et il régnera pour toujours et à jamais. » Et les 24 anciens, qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu. Maintenant, mes frères, il y a tellement de destruction sur terre à ce stade, mais en même temps, il y a cette image en noir et blanc. Vous avez l'image noire de tout. Le noir représente toute la destruction, mais le blanc, à l'opposé de toute cette destruction, représente la grande joie que vous voyez se manifester en ce jour. Nous te rendons grâce. Verset 17. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient, parce que tu as pris ta grande puissance et que tu règnes. Et les nations étaient en colère parce que ta colère est venue au moment où les morts devaient être jugés et où tu devais récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignaient ton nom, petits et grands, et détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de l'Alliance apparut dans le temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une grande grêle. Ainsi, mes frères, nous pourrions passer en revue les derniers fléaux, les coupes du chapitre 16, qui les énumèrent tous. Mais vous en arrivez aux pointes où, si vous allez au chapitre 19 de l'Apocalypse, une fois que tout est dit et fait en ce grand jour, le jour de la trompette et de l'alarme, ce n'est que merveilleux. Une fois ce jour passé, ce jour de trompette inaugure et annonce la période la plus merveilleuse de paix, de prospérité, de joie et d'abondance que le monde ait jamais connue. Réfléchissez-y. Considérez que pour ceux qui sont du bon côté du plan de Dieu, le jour du Seigneur, entendre ces trompettes n'est pas aussi terrifiant que pour ceux qui sont du mauvais côté. Pour ceux qui sont du bon côté du plan et du dessein de Dieu en ce jour, vous entendrez ces trompettes et vous vous réjouirez d'une certaine manière. Maintenant, nous ne nous réjouissons pas du fait que des gens meurent, mais si les gens ont volontairement choisi leur destin, la seule chose qui serait bonne pour la société et l'humanité dans le millénaire, c'est qu'ils n'existent plus. C'est le chemin par lequel la paix vient. Ainsi, pour beaucoup, entendre ces trompettes le jour du Seigneur est en fait, une fois qu'elles ont toutes retenti, source d'une grande joie et d'une grande allégresse. Nous le verrons au chapitre 19, verset 1. Et après ces choses, une fois que tout sera dit et fait, j'entendis une voix forte d'une foule nombreuse dans le ciel, qui disait, « Alléluia, le salut, la gloire, l'honneur et la puissance appartiennent à notre Dieu, car ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs qui étaient dans ses mains. » Et de nouveau, ils dirent, « Alléluia !» Car sa fumée monte pour toujours et à jamais. Et les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu qui était assis sur le trône, en disant, Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, et vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une grande multitude, comme le bruit des grandes eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse après que toutes ces trompettes ont sonné, et rendons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Nous avons récemment assisté à un mariage. Les mariages sont merveilleux, car deux personnes s'unissent. Nous savons combien il est merveilleux de s'unir physiquement sur cette terre pour le reste de notre vie. Combien plus merveilleux sera-t-il de nous unir à Dieu et d'entrer dans sa famille, de devenir l'épouse du Christ pour l'éternité, sachant que nous aurons l'Esprit de Dieu et que nous serons faits de l'Esprit de Dieu pour toute l'éternité, sans pouvoir pécher. Tout cela sera aboli. Frères et sœurs, cela procure une grande joie qui est indescriptible. Pensez à tout ce qui va se passer en ce jour du Seigneur après que les trompettes auront retenti. La dernière trompette, comme le dit la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, la dernière trompette sonnera, les morts ressusciteront et ils seront transformés en esprit éternel, recevant la vie éternelle. Frères et sœurs, ces trompettes n'inspirent pas seulement la crainte, elles inspirent une grande réjouissance et une grande joie dans nos esprits. Nous considérons que Christ va revenir, que le Père va venir, que le royaume de Dieu sera sur terre et que tous les royaumes de l'humanité seront éradiqués, supprimés. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront là, et tous les saints seront là. Ce sont là des choses dont nous pouvons nous réjouir et auxquelles nous devons penser. Nous devrions penser à cela, que toutes les souffrances prendront fin. Cela fait partie de ce jour des trompettes. Il annonce une période où toutes les souffrances prendront fin, où toutes les larmes sécheront. La tristesse se transformera en rire. Nous devrions nous attarder sur ce jour des trompettes. Que se passera-t-il pendant le millénaire après que les trompettes auront retenti? Il y aura la fin de la guerre. Nous avons connu la guerre ces dernières années, comme nous n'en avions pas connu depuis longtemps. Sur de nombreux fronts différents. Tout cela prendra fin, tous les vices contre lesquels les gens luttent. Que ce soit la drogue, la pornographie ou tout autre vice auquel les gens sont confrontés de nos jours. Tout cela prendra fin. La fin de la politique telle que nous la connaissons viendra à la fin des trompettes. La fin de l'influence de Satan. Tout cela et bien d'autres choses encore produisent une joie incommensurable. Alors, mes frères, alors que nous arrivons à la conclusion, vous l'avez peut-être déjà compris, mais il y a un point important qui ressort de l'ensemble de ces récits sur les trompettes. C'est que les trompettes nous préparent pour les autres jours saints de l'automne. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, nous en avons déjà parlé. Nous avons déjà parlé de la façon dont Dieu, à Jéricho, et dont Dieu, utilisant l'armée de Gédéon, a voulu utiliser les trompettes pour nous aider à apprendre à nous humilier. Tout comme nous sommes censés le faire le jour des expiations. Nous avons appris au Sinaï et à Jéricho, et à travers les plaies des trompettes, que Dieu voulait que nous développions la crainte de Dieu en utilisant des trompettes. Eh bien, nous sommes censés le faire lors de la fête des tabernacles. Ce jour des trompettes nous prépare à nous humilier, à apprendre à le craindre et, bien sûr, à nous réjouir. Lorsque nous entendons ces dernières trompettes et que nous voyons toutes ces choses merveilleuses arriver au millénaire, nous sommes censés apprendre à nous réjouir. Ce jour des trompettes ne sert donc pas seulement à apprendre des leçons, mais à apprendre des leçons qui nous préparent. Il s'agit de nous préparer pour le reste des jours saints d'automne, de nous inciter à nous humilier le jour des expiations, de nous inciter à apprendre à craindre lors de la fête des tabernacles et à nous réjouir lors de la fête des tabernacles. C'est ce que Dieu nous a donné en ce jour des trompettes d'automne. Je terminerai comme j'ai commencé. Le jour des trompettes est un jour à retenir, et alors que nous entrons dans la saison des jours saints d'automne, gardons à l'esprit les récits sur les trompettes que nous avons lus aujourd'hui et bien d'autres encore dans la Bible. Si nous le faisons, nous serons prêts lorsque les trompettes retentiront.